Triptyque sur le critique. Seconde partie, prendre soin des peurs du critique intérieur. Bonjour, je m'appelle Véronique Brard et j'enseigne le Voss Dialogue. Je rappelle que le Voss Dialogue est un dialogue entre deux personnes. Un dialogue entre un praticien formé au Voss Dialogue que nous nommons le facilitateur et une autre personne que nous nommons le facilité. Le facilitateur va interviewer une ou plusieurs des voix présentes chez le facilité. Lors de ces interviews, une des voix qui est très souvent présente est celle du critique intérieur. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il n'arrive pas en disant « Salut, je suis le critique », mais si en tant que praticien nous connaissons sa vibration, nous pouvons la reconnaître et inviter la personne à explorer cette énergie pour mieux s'en séparer. Après vous avoir présenté le critique intérieur comme une énergie transgénérationnelle qui est liée à nos blessures d'enfance, nous allons dans ce second volet parler plus particulièrement des critiques attaques. Les critiques attaques, ce sont les brusques attaques du critique. Je vais vous en donner plusieurs exemples. Nous allons également approfondir les peurs du critique qui sont très souvent liées aux peurs de celui que je nomme notre enfant peur. Il les suscite et elles le génèrent. En clair, le critique terrifie notre enfant vulnérable, mais il vient aussi en réponse à ses émotions de peur, de détresse ou de tristesse. Notre but est clair, mettre en évidence ce critique pour lui retirer son statut abusif de protecteur et aller vers notre réelle lumière. La lumière de l'âme, celle de l'esprit, présente en nous comme dans tout ce qui existe. Point 1. Nous allons commencer par vous donner 4 exemples de critique-attaque. Il existe une musique de fond, celle qu'il est possible de ne même plus entendre, celle qui reste là en sourdine, à peine audible, qui nous rend triste, malheureux, dépressif, mais il existe aussi des attaques brusques, soudaines, paralysantes, destructrices. Lorsque vous changez d'humeur tout d'un coup dans la journée, lorsque vous vous sentez brusquement morose, sans enthousiasme, asseyez-vous un instant et demandez-vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? En clair, est-ce qu'un critique ne serait pas en train de me tourner autour? Le premier exemple d'une critique-attaque, c'est le critique à trois têtes. Cédric est invité chez des amis qu'il connaît bien, mais ce jour-là, un autre invité qu'il ne connaît pas est présent. Cet autre homme parle bien, il capte avec facilité l'attention de ses hôtes. En fait, il intimide Cédric. Nous pouvons tous être intimidés un jour ou l'autre. Nous avons tous, même les plus extravertis d'entre nous, un enfant timide qui dort quelque part en nous et qui peut se réveiller. C'est normal. Mais le critique de Cédric n'est pas d'accord. Il attaque. Or, ce critique a trois têtes. Trois têtes qui aboient sur Cédric, même si tout se passe en silence et à l'intérieur de lui, bien sûr. L'une aboie. Tais-toi. N'essaie même pas de parler, tu vas dire que des conneries. L'autre vocifère. Mais enfin, parle! C'est ridicule d'être timide à ce point. La troisième siffle. T'es nul. Comment veux-tu que les gens s'intéressent à toi? Tu n'as pas dit un seul mot de la soirée. Cédric repart de ce dîner complètement abattu, même si personne n'a pu s'apercevoir de la scène très privée qui s'est jouée entre lui et lui, ou plus exactement entre son critique à trois têtes et lui. Pendant un certain temps, il n'accepte plus aucune invitation, il vit en ermite, seul, face à son Cerbère, qui lui reproche, bien sûr, de ne pas avoir de vie sociale. Zélie et Célia. Je vais vous donner un autre exemple, mais cette fois d'une personne qui connaît son critique, qui peut s'en différencier et le gérer. Célia est thérapeute. Elle vient de changer récemment sa façon de travailler. Elle a lu un livre d'Irving Yalom sur la congruence. La congruence peut se définir comme le fait d'être davantage soi-même dans une relation thérapeutique. Elle a ses limites, mais aussi ses bénéfices. Cela dépend beaucoup de la prise en compte ou non de la vulnérabilité du thérapeute et de celle du thérapisé. Donc, Célia vient de finir une séance avec une cliente de longue date et elle a terminé en nommant clairement que l'énergie dans laquelle cette cliente se trouvait était une énergie de victime. Rien de mal à ça, a-t-elle ajouté avec une réelle bienveillance. Nous avons tous une victime, petite ou grande, à l'intérieur de nous. C'est un cadeau malheureux de notre enfance. Cependant, une victime pense en victime, agit en victime, vit en victime. Et cela doit être considéré pour comprendre ce qui se passe dans notre vie. Et si cela ne nous convient pas, éventuellement y remédier. La cliente n'a rien dit, et il semble aux critiques de Célia qu'elle lui a dit au revoir avec moins de chaleur que d'habitude. Elle a cependant repris un rendez-vous. Une heure plus tard, assise à son bureau, Célia se sent mal. Elle n'a plus envie de travailler. Elle se dit qu'elle en a assez de son métier, qu'elle ferait mieux d'aller cultiver des fleurs ou de faire toute autre chose. Célia est sous le coup d'une critique-attaque. Célia connaît son critique depuis bien des années. Elle a fait un certain nombre de séances de voice-dialogue dans lesquelles un facilitateur a interviewé son critique. Elle a clairement en mémoire l'énergie de celui-ci. Au bout d'un moment, elle réalise ce qui se passe. Il est là. Célia réalise que c'est la présence de ce critique qui fait qu'elle se sent lourde, clouée sur ce fauteuil de bureau, avec aucune envie de travailler, ni de faire quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Elle décide de lui donner la parole. Ce n'est pas une séance de voice dialogue à proprement parler. Les séances de voice dialogue nécessitent un interlocuteur extérieur. C'est toutefois un dialogue extériorisé qui peut se révéler constructif. Célia nomme son critique principal, parce que nous en avons plusieurs, il faut bien le savoir. Elle le nomme Zélie, du surnom de sa mère. Ce n'est peut-être pas très gentil pour sa mère, mais cette mère était un sacré critique. Ou disons que sa mère avait un critique très très présent, qui avait un but, faire de sa fille quelqu'un de bien. Célia décide donc de donner la parole à haute voix à Zélie. Et vous savez quoi? Zélie est là et elle ne se fait pas prier pour dire ce qu'elle pense. Tu te rends compte de ce que tu as dit à cette femme? Tu vas perdre tous tes clients. Je suis certaine qu'elle ne reviendra pas. Elle va annuler son prochain rendez-vous. Tu fais n'importe quoi. Tu vas te retrouver à la rue. Tu n'aurais jamais dû lire ce livre, tu n'aurais jamais dû parler comme ça, c'est n'importe quoi. D'abord, tu ne devrais pas lire tous ces livres. Tu devrais t'en tenir à ce que tu connais parfaitement, etc., etc. C'est « tu aurais dû, tu n'aurais pas dû » suivre le scénario bien connu qui aboutit aux images de clochards vivant sous les ponts. C'était d'ailleurs une des menaces de la réelle Zélie lorsqu'elle trouvait Célia en train de dessiner au lieu de faire ses devoirs. La mère intérieure critique de Célia est une Zélie intériorisée qui reprend nombre des phrases critiques de la réelle Zélie. Elle est présente, elle se fait du souci, elle aimerait protéger Célia, mais elle est elle-même complètement paniquée et morte de peur. Ce qui d'ailleurs était souvent le cas de nos parents. Le discours véhément de Zélie fait sourire Célia. Il existe déjà une bonne séparation entre cette mère critique intériorisée et Célia. Percevoir Zélie si inquiète, si concernée, ne déstabilise plus Célia. Elle peut même entendre de l'autre côté la voix de son rationnel objectif. Écoute, ce que tu as fait est cohérent avec la façon dont tu veux travailler. Cette cliente a repris rendez-vous. Jusque-là, tout va bien. Si elle annule son rendez-vous et si d'autres le font aussi, à ce moment-là, nous réfléchirons à ce qui ne va pas. On verra. Pour le moment, tout va bien. Célia a pu entendre la voix de Zélie, puis laisser la place à la voix de son rationnel objectif, sans que ces deux énergies ne se battent à l'intérieur d'elle, sans que la voix de l'une ne recouvre la voix de l'autre. Célia peut maintenant rassurer Zélie et s'apercevoir que ses peurs, les peurs de Zélie, viennent des expériences difficiles de sa mère, non de la réalité présente. Elle promet à Zélie que si ses prédictions se confirment, elle prendra sa situation financière très au sérieux. Psychologiquement parlant, elle passe un bras autour des épaules de Zélie et la rassure. Célia sent son corps se détendre. L'opposé du critique peut être le rationnel objectif, comme celui qui vient de parler à Célia, mais il peut être aussi un approbateur. Un approbateur qui pourrait dire « Écoute Célia, tu es très courageuse. Faire évoluer ta pratique est très courageux. Nous ne savons pas encore si tu es suffisamment habile à employer cette nouvelle méthode, mais c'est en la pratiquant que tu deviendras habile. Tu n'as pas à craindre de faire des erreurs. Tous les spécialistes le savent, on ne peut apprendre qu'en s'autorisant à faire des erreurs. Et avec cette autorisation vient la capacité de devenir habile. Ce qui cause problème, ce n'est pas de faire des erreurs, c'est de persévérer dans ces erreurs. Bien sûr, tu dois veiller à rester empathique et bienveillante, mais cela ne veut pas dire ne jamais faire de retour honnête à tes clients. Pour moi, tu es suffisamment à l'écoute de ta vulnérabilité et de celle de tes clients pour que cela soit ton garde-fou. Aie confiance. Regarde ce qui va se passer sans rien anticiper. Attends de savoir si cette cliente va revenir et de voir ce qui se passera entre vous deux. Tu es quelqu'un de bien, tu peux faire ce métier, aucun doute à ce sujet. Célia connaît aussi une autre façon de sortir complètement du champ d'énergie critique de Zélie. C'est une habitude qu'elle a mise en place depuis le début de sa rencontre avec elle. Célia se met à chantonner. Toute une partie de son répertoire de chansons enfantines y passe, jusqu'à ce qu'elle chante à pleine voix. Sa bonne humeur est revenue. Noémie et la route mal indiquée. Prenons un nouvel exemple d'une critique-attaque très banale. Mais rien n'est banal quand il s'agit de sortir de ces automatismes et des traumatismes de l'enfance. Cela se passe avant l'époque des GPS. Saint-Rémy-de-Provence, Noémie sort d'un excellent restaurant, elle est de très bonne humeur, elle doit maintenant rejoindre des amis à Nîmes. Elle tourne en rond dans Saint-Rémy sans trouver sa direction. Une route est indiquée, Avignon, ce n'est pas la sienne, une autre, Cavaillon, c'est là d'où elle vient, elle cherche Nîmes. Au troisième tour de manège autour du rond-point, elle sent la rage et la colère qui montent en elle comme des chevaux au galop. Comment peut-on si mal indiquer les directions ? Elle peste contre tous ceux dont c'est le boulot et qui le font si mal. Elle se décide brusquement à prendre la route par laquelle elle est venue et, quelques centaines de mètres plus loin, un autre rond-point. Il permet soit de retourner à Cavaillon, soit d'aller à Nîmes. Le problème est résolu. Noémie continue cependant de pester contre tous ces cons qui ne peuvent même pas faire un fléchage adéquat. Sa bonne humeur a totalement disparu, elle est vraiment en colère. Une part d'elle, cependant, est restée en observation, un petit bout de sa conscience. Cette part de Noémie se demande pourquoi un tel changement d'humeur pour une direction mal indiquée dans un petit patelin. Elle tourne trois fois en rond et elle est en rage contre le monde entier. Que se passe-t-il ? Derrière sa colère, Noémie pratique le voice dialogue, derrière sa colère, elle sent son enfant peur, complètement paniqué. Elle le laisse volontairement venir à sa conscience. Il lui dit qu'il a peur, qu'il n'aime pas lorsqu'elle ne trouve pas son chemin. « Ok, normal, pense-t-elle. L'enfant a eu peur, une colère est montée, normal. » Mais la conscience de Noémie n'est pas satisfaite. Pourquoi cet enfant est-il dans tous ces états? La réponse fuse. C'est mal de ne pas réussir. Noémie ne trouve pas la sortie pour Nîmes. Elle fait 3 fois le tour d'un rond-point. La situation est ce qu'elle est. Aucun danger, pas d'urgence. Mais une voix vient mettre son grain de sel. C'est mal de ne pas réussir, c'est mal de rater, c'est mal de ne pas savoir. Un critique parle, un critique qui affole l'enfant. Le point de départ de cette brusque colère est la voix d'un critique intérieur qui parle à l'oreille de l'enfant et l'angoisse. C'est mal de ne pas réussir. Ne pas réussir, c'est être nul. Être nul, c'est être promis à une vie de misère. Tu seras caissière à Monoprix, disait son père avec mépris en regardant ses carnets scolaires. C'est mal de ne pas réussir à trouver sa route vite et bien. Combien de drames quotidiens se tissent sur ce genre de croyances ? Avec pour seul indice une personne qui brusquement s'emporte contre une autre ou contre tous les cons de la terre. Noémie était seule. Mais imaginez le scénario avec un mari ou un copain. Je crois que les GPS sauvent bien des couples. Carole et sa vieille tante. Je vais vous donner un dernier exemple d'une attaque du critique. À nouveau, rien de dramatique, juste la révélation de la présence souterraine permanente de ce critique hyper vigilant. Carole a passé la nuit chez sa tante, une personne sympathique de 88 ans qu'elle aime bien. C'est le matin. Elle a pris une couverture dans l'armoire de sa chambre, elle l'a pliée en 3 et disposée par terre, sur le parquet, pour se faire un tapis pour une séance de yoga. La maison est grande, elle est dans l'appartement du rez-de-chaussée, sa tante dans celui de l'étage. La séance de yoga se déroule à merveille. Carole est détendue, centrée sur sa respiration, tout va bien. Un bruit, un craquement. En un instant, Carole est debout, ramasse la couverture, la plie, la pose sur le lit et s'assied sur ce lit, le cœur battant. Elle a pensé que sa tante descendait l'escalier et allait surgir dans sa chambre. Elle a eu peur. Carole est abasourdie par sa réaction. Elle reprend ses esprits, refait son installation, s'allonge de nouveau et interroge son enfant peur. Il est terrorisé parce que sa tante peut penser que c'est mal de poser au sol une couverture qui normalement se met dans un lit, parce qu'il ne sait pas ce qu'elle pense du yoga, parce que Carole est réveillée et n'est pas allée lui dire bonjour. Bref, pour tout un tas de raisons, il est terrorisé. En fait, le critique de Carole est sûr et certain qu'elle ne se comporte pas du tout comme il le faut, et l'enfant entend ce critique et le croit. Ce qui nous amène au point 2, notre critique a peur. L'un de nos grands apprentissages est de réaliser que lorsque nous nous sentons mal, déprimés, le plus souvent un critique est là. Et ce critique a peur. Extérioriser sa voix, le laisser parler sans s'identifier à lui, amène un changement. Il est beaucoup plus facile de le faire avec un facilitateur. Dans une séance de voice dialogue, nous lui donnons une autre chaise que la nôtre. Nous nous déplaçons sur cette autre chaise avec la conscience que nous ne sommes plus la totalité de nous-mêmes. Nous nous réduisons volontairement à cette énergie critique et nous la laissons parler. Ainsi, nous entendons ce qui lui fait souci, nous entendons ses inquiétudes et ses peurs. Avec ces précieuses informations, nous revenons sur la chaise initiale. Littéralement, nous nous séparons physiquement du champ énergétique du critique. En fait, nous travaillons avec 3 chaises. Imaginez 3 chaises. Celle du milieu, c'est la vôtre, avec toutes vos différentes parties connues et inconnues. Puis, si en tant que critique, vous vous êtes assis sur la chaise de droite, après être revenu sur la chaise du milieu et vous sentir un peu séparé de sa façon de voir les choses, vous pouvez laisser venir une autre voix venue d'un autre champ d'énergie, une énergie opposée. Vous pouvez alors vous asseoir sur la chaise de gauche pour incarner cette énergie et entendre ce qu'elle peut vous apporter. C'est simplement quelque chose que le corps peut faire, mais qui nécessite l'aide d'un facilitateur, d'une personne extérieure qui connaît bien ses voies critiques. Point 3. Le sentiment d'être nul, d'être sans valeur, terrifie l'enfant intérieur. Or, ce sentiment d'être nul et sans valeur n'est pas justifié. Il ne l'a jamais été. Il vient des croyances de notre critique, croyances générées par l'inquiétude de nos parents et leurs difficultés avec leur propre critique intérieure, voire parfois, souvent, avec les traces d'un éducateur noir issu de l'histoire assez tragique de la race humaine. Cet éducateur noir transgénérationnel explique bien des comportements. Pour mieux comprendre cet éducateur noir transgénérationnel, je vous renvoie au dernier livre d'Olivier Morel, « De l'enfant protégé à l'enfant corrigé », édition L'Harmattan. Ce sentiment d'être sans valeur est un cadeau plutôt maladroit du passé, de ceux qui nous ont élevés. Parfois, c'est aussi une interprétation de ce que nous avons vécu. En tout cas, il n'est pas lié à la réalité de ce que nous sommes. Point 4. Nous avons besoin de discernement, non de remarques agressives. Le critique est venu pour nous protéger. Cependant, nous pouvons réaliser qu'un critique devenu virulent et agressif ne nous protège pas. Pour lui, rien n'est normal. Nos émotions en particulier ne lui semblent jamais normales. Elles l'angoissent et suscitent une avalanche de critiques. Être triste n'est pas normal pour lui, souffrir non plus. En fait, il ne sait pas ce qui est normal ou non. À la fois psychique et organique, nos émotions forment un flux d'informations qui circulent dans nos systèmes. Elles nous informent, nous font réagir, nous permettent de comprendre, nous offrent des ressources et nous font bouger. Elles nous aident à nous réguler. Les émotions, c'est la vie. Nous avons besoin de discernement. Non d'un doute constant sur ce que nous vivons, non d'une dévalorisation que nous ne méritons pas et n'avons jamais méritée. Remettre en cause les convictions et croyances de notre critique nous demande de ne plus confondre sa voix avec celle de Dieu le Père. Le gain est de découvrir que nous pouvons avoir confiance en nous et assurer notre sécurité d'une façon différente de la sienne. Une façon beaucoup moins coûteuse en termes de perte de vitalité. Pour cela, il nous faut reconstruire l'estime de nous qu'une enfance passée parmi des adultes eux-mêmes dévorés par leurs critiques nous a fait perdre. Point 5. Le critique nous sépare de notre lumière. L'évaluation permanente sape notre créativité et détruit l'amour. L'amour de nous-mêmes, tout comme l'amour qui existe au sein d'un couple ou entre amis. L'évaluation permanente n'est pas compatible avec la vie. Les critiques tuent l'amour et détruisent le vivant. Le jugement est une construction du critique. Nous avons appris à nous juger. Nous ne sommes pas nés ainsi. Le critique nous sépare de la lumière et du rayonnement de notre âme. Se séparer des évaluations positive ou négative est le défi. Nous pouvons privilégier d'autres énergies, mais ce n'est pas un jeu intellectuel, c'est un déplacement énergétique. Penser autrement nous demande de changer de fréquence, d'état d'être. Cela demande une compréhension de ce qui se passe et un changement conscient d'énergie. Cela peut sauver la journée, la semaine, voire une amitié ou un couple. Point 6. Discuter ne sert à rien. Pour sortir du critique, respirer, danser, chanter, se baigner, méditer font beaucoup mieux. En prêtant attention à notre critique intérieure, aux réactions brusques de peur ou de colère que ces jugements provoquent en nous, nous pouvons réaliser à quel point l'enfance a imprimé la peur dans chacune de nos cellules. Mais nous pouvons réaliser aussi que, aujourd'hui, nous avons la possibilité, et peut-être même le devoir, de sortir nos enfants intérieurs des griffes de ce critique. Cependant, son champ énergétique est un énorme aimant. Il nous aimante littéralement. Pour faire face à ses croyances, ses doutes et les reproches qui s'ensuivent, discuter, argumenter ne sert à rien. Il est presque plus intelligent que nous. Discuter avec lui, c'est perdre. Il s'agit en fait de sortir de son champ d'énergie. Pour cela, plusieurs solutions. Respirer, jouer, danser, chanter, aller marcher, courir, se coucher dans l'herbe, rire, regarder un film drôle, mais discuter jamais. Pour terminer cette seconde partie, je vous propose un exercice. Respirer profondément aide à sortir de l'énergie du critique, aide à accepter de ressentir l'émotion présente sous les critiques, à la laisser nous traverser sans s'identifier à ce qu'il dit. Je vais donc vous proposer de respirer profondément. Placez une main sur votre cœur. Sentez les battements de votre cœur. Sentez votre corps vibrer au rythme de votre cœur et respirez. Respirez profondément. Respirez jusque dans votre ventre. Caressez ce ventre où dort l'enfant peur. Envoyez de la lumière tout autour de lui, des pensées d'amour, des pensées douces, rassurantes, pour lui dire que vous êtes là, pour lui dire que vous êtes quelqu'un de bien depuis toujours. Vous êtes une âme venue vivre dans un corps humain. Nul besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà, unique, relié à l'esprit qui existe en tout ce qui est. Vous n'êtes pas en dehors de ce champ. Vous êtes ce champ. Sentez les vibrations rapides, chaotiques, se lisser au fur et à mesure que vous respirez amplement. Sentez-les faire place à des vibrations plus lentes, plus sereines, plus lumineuses. Simplement parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes une âme dans un corps humain et que ce corps humain est magnifique, même s'il a des réflexes de contraction venus de votre histoire et de celle de ceux qui vous ont précédé. L'âme, en se glissant dans le corps, a amené nombre d'émotions glanées dans ses multiples voyages. Ces émotions ont été réanimées par notre enfance. Elles peuvent nous envahir aujourd'hui. Elles demandent guérison. Et nous pouvons les accueillir tranquillement, sans toujours et jamais, sans critique, sans prédiction catastrophique. Nous pouvons laisser l'émotion nous traverser. Peur, colère, tristesse, anxiété, honte, désespoir. Ces émotions étaient trop lourdes pour nous lorsque nous étions enfants. Notre corps d'adulte aujourd'hui peut les supporter sans en mourir. Guérir de nos blessures en nous regardant avec amour est l'antidote au poison qu'instillent en nous toutes les critiques intérieures. Et les critiques extérieures ne font souvent que mettre en route nos propres critiques. Lorsque nous respirons avec une grande amplitude, une autre énergie peut se glisser en nous et nous aider dans cette démarche de guérison. Celle d'un approbateur, d'un parent aimant. Si cette énergie n'existe pas, inventez-la, tricotez-la maille après maille. Chaque battement de cœur nous parle d'un enfant lumière, relié à la paix, à l'amour, à la joie, d'un cœur intact, sans aucune blessure, où s'éveille l'intelligence de l'âme. Une âme qui peut se relier à la source, à l'intelligence de l'univers, qui peut accueillir l'esprit. Si nous ne faisons rien d'autre qu'apprendre à ne pas nous juger, notre évolution deviendra fulgurante. Nous pouvons réaliser immédiatement lorsque le critique est là et utiliser la respiration pour lui faire lâcher prise. Ainsi se termine cette deuxième partie. C'était Véronique Prard et je vous dis à bientôt pour le troisième et dernier volet de ce triptyque sur le critique.